Radio Vatican, France et Afrique.
Mes auditeurs, merci de nous rejoindre à l'écoute de Radio Vatican. À l'audience générale, mercredi 31 mai, le pape François a évoqué la figure du vénérable Matteo Ricci, jésuite évangélisateur de la Chine au XVIe siècle. Sa manière d'annoncer l'évangile et de vivre sa vocation avec cohérence reste une référence pour notre temps, a fait savoir le pape. Des nouvelles de l'Église Famille de Dieu en Afrique dans cette édition pour évoquer le pèlerinage marial national de Popongine à l'occasion de la clôture du mois de mai et mois marial. Ce pèlerinage marial était à sa 35e édition. En Côte d'Ivoire, la célébration de la Pentecôte a été notamment marquée par l'édition 2023 de la Pentecôte nationale, organisée par le Renouveau charismatique catholique du 28 au 29 mai à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. Dans l'actualité sociopolitique africaine, nous serons au Soudan, en Gambie notamment. Dans la deuxième partie de cette édition de notre programme, nous parlerons de la clôture des festivités marquant les 140 ans de l'évangélisation du Congo-Brazzaville le 4 juin prochain, avant d'évoquer l'ouverture à cette même date du 3e Congrès Eucharistique National de la République démocratique du Congo, qui se tiendra jusqu'au 11 juin à Lubumbashi, dans le sud-ouest du pays.
Radio Vatican, France et Afrique, Françoise Niamier.
Le pape François a choisi Matteo Ricci mercredi lors de l'audience générale comme exemple de zèle apostolique. Poursuivant son cycle de catéchèse sur la passion pour l'évangélisation, il a loué chez ce jésuite évangélisateur de la Chine un modèle de cohérence de vie. Adélaïde Patrignani.
Né au XVIe siècle à Macerata, en Italie, Matteo Ricci rêve d'Extrême-Orient en étudiant dans la Compagnie de Jésus. Bien préparé, il part pour la Chine avec un confrère. 18 ans plus tard, ils parviennent à Pékin. Avec persévérance et patience, animé d'une foi inébranlable, Matteo Ricci a su surmonter les difficultés et les dangers, la méfiance et l'opposition, a souligné François. Sa méthode était celle du dialogue et de l'amitié avec tous. Avec une attitude d'inculturation, il parle du christianisme en dialogue positif avec la sagesse confucéenne et les coutumes de la société chinoise. Matteo Ricci, grand scientifique et homme de lettres, frappe aussi par son témoignage de vie religieuse, de vertu et de prière, a expliqué François. Nombre de ses amis chinois adhèrent à la foi catholique.
Quello che attira le persone è la testimonianza di coerenza.
Ce qui attire les personnes est le témoignage de cohérence, a insisté le pape. L'esprit missionnaire de Matteo Ricci est un modèle vivant aujourd'hui. Son amour pour le peuple chinois est un modèle, mais d'abord le jésuite italien est un homme crédible. Il est grand parce qu'il a été cohérent avec sa vocation, cohérent avec son désir de suivre le Christ, a répété le pape. Et de conclure en invitant chaque fidèle à s'interroger en son fort intérieur sur sa propre cohérence de vie.
Adélaïde Patrignani. Parmi les pèlerins qui ont pris part à l'audience générale du pape mercredi, se trouvaient les participants au programme de la Ronde Citadelle de la Paix, une association italienne dédiée à l'éducation à la paix. Depuis 1998, l'association accueille des jeunes provenant de pays touchés par des conflits violents pour une durée de 2 ans. Au nombre de ceux-ci se trouve Salomon, de nationalité malienne. Après 7 mois au sein du programme, Salomon nous fait part de son expérience et de ses aspirations. Il envisage d'exploiter les compétences acquises au sein de l'association pour participer activement au processus de paix dans son Mali natal.
Avant de venir à Rondiné, j'avais toujours la volonté de faire cette expérience, de vivre avec les jeunes qui sont différents de moi, qui ont des cultures différentes que moi. Au début, ça n'a pas été facile. Il a fallu un peu de temps pour que je puisse m'adapter. Tout dépend du dialogue interpersonnel que nous avons à Rondiné.
Comment cette expérience, je dirais, de diversité culturelle, mais aussi les compétences et les connaissances que vous avez acquises déjà dans ce temps de formation, vous envisagez que cela puisse être utile dans des projets de paix, dans des projets de construction du vivre ensemble quand vous serez dans votre pays?
Effectivement, nous travaillons sur cette mentalité chaque jour à Rondiné. Il s'agit de le vivre ensemble, à travers le dialogue et l'acceptation. Alors, à Rondiné, nous avons cette mentalité de collaborer ensemble, de cultiver cette mentalité de paix. Nous sommes là pour 2 ans et nous devrons travailler sur un projet social. L'objectif principal, c'est quoi? C'est après un rondinet que nous retenions chez nous pour travailler sur ce projet social afin d'impacter positivement notre environnement ou la société.
Salomon, jeune Malien participant au programme de la ronde citadelle de la paix en Italie. Des propos recueillis par Pierre Dalin d'Omerson. L'actualité de l'Église en Afrique nous conduit tout d'abord au Sénégal, où a eu lieu le pèlerinage marial national de Popongine à l'occasion de la clôture du mois de mai et mois dédié à la Vierge Marie. C'était la 35e édition qui a réuni près de 30 000 fidèles dans ce sanctuaire marial situé à 70 km au sud de Dakar, dans la région de Thiès. Les pèlerins ont notamment été exhortés à l'accueil, à l'exemple de la Vierge Marie. Le compte rendu de Clément Aouandino.
Le pèlerinage marial national de Popongine, la 135e édition, a eu lieu du 27 au 29 mai au pied de Notre-Dame de la Délivrande autour du thème « Comment m'est-il donné que la mère de mon Sauveur vienne jusqu'à moi ?» La messe solennelle du lundi a été présidée par Mgr Paul Abel Mamba, l'évêque du diocèse de Tambacounda, diocèse à l'honneur cette année. À l'homélie, il explique.
Nous aussi, comme disciples du Christ et comme fils et filles de la Vierge Marie, nous sommes appelés à accueillir les autres, les envoyés du Seigneur. Et nous devons rester ouverts et accueillants pour recevoir d'eux ce que le Seigneur nous envoie.
Jean-Baptiste Ndou, le coordonnateur des chorales du diocèse de Tambacounda, qui ont chanté à cette messe, donne ses impressions.
Oui, le pèlerinage, on l'a vécu dans la ferveur, dans la spiritualité, mais surtout la prestation de nos choristes a été très, 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 très satisfaisante. Nous rendons grâce à Dieu. Nous sommes vraiment comblés au-delà même de ce qu'on s'attendait.
Ils étaient près de 30 000 pèlerins à prendre part à cette grande messe qui a eu lieu dans le nouveau sanctuaire en pleine construction qui, à terme, accueillera 50 000 fidèles. Clément Awangino, Dakar pour Radio Vatican.
En Côte d'Ivoire, plus de 60 000 fidèles étaient rassemblés du 28 au 29 mai à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro pour célébrer dans la joie, la communion et l'unité, la descente de l'Esprit-Saint sur les apôtres. L'édition 2023 de la Pentecôte nationale, organisée par le Renouveau charismatique catholique de Côte d'Ivoire, avait pour thème l'impact du Saint-Esprit dans la vie du chrétien pour une église synodale. Au cours de ce ressourcement spirituel, les fidèles ont prié pour une nouvelle effusion du Saint-Esprit sur la Côte d'Ivoire, l'Église et les familles. Les précisions de Marcel Ariston-Blé.
Esprit de Dieu, nous te bénissons. Esprit d'amour, nous t'adorons.
Venus de tous les diocèses du pays, ces prêtres consacrés laïcs ont prié le Paraclet afin de renouveler en eux le feu de son amour pour être de véritables témoins du Christ ressuscité dans leur milieu de vie. Face aux multiples défis actuels du chrétien dans le monde, le père Norbert Eric Abécan, secrétaire exécutif national de la commission Justice, Paix et Environnement, dans son enseignement sur le thème principal de ce ressourcement spirituel, l'impact du Saint-Esprit dans la vie du chrétien pour une église synodale, les a invités à être des chrétiens modèles, des torches, mais aussi des repères pour éclairer notre société d'aujourd'hui en perte de ses valeurs morales, sociales, humaines et spirituelles. Fortifié par l'Esprit Saint, le père Abécan les a aussi appelés à s'engager véritablement à la transformation du monde par l'annonce de la parole de Dieu, le témoignage de vie chrétienne, la foi vécue et pleinement assumée. Et pour cela, il leur a demandé de bannir en eux la peur. Lors de la messe qu'il a présidée au terme de ce recensement spirituel, le père François Cominan, secrétaire exécutif national des œuvres catholiques, a quant à lui exhorté dans son homélie les membres du renouveau charismatique catholique de Côte d'Ivoire à vivre chaque jour dans l'esprit et sous la houlette de l'esprit, c'est-à-dire tourner résolument vers Dieu pour être de vrais sujets actifs et responsables pour l'annonce de l'évangile. Marcel Ariston Blé, Yamoussoukro, Côte d'Ivoire pour Radio Vatican.
L'actualité sociopolitique africaine à présent, l'armée soudanaise a suspendu sa participation aux négociations en Arabie Saoudite visant une trêve avec les paramilitaires qui contestent son pouvoir. Ces pourparlers étaient supervisés par les États-Unis et l'Arabie Saoudite, comme l'a indiqué mercredi un responsable gouvernemental soudanais. Les élections générales au Zimbabwe qui s'annoncent tendues et dont la date était attendue depuis des mois aura finalement lieu le 23 août prochain, selon le journal officiel du gouvernement publié mercredi. En Gambie, Amnesty International a alerté mercredi sur les conséquences dévastatrices de la surpêche pour la population locale. La surpêche en raison des activités des usines de farine de poisson et d'huile de poisson ainsi que des chalutiers industriels étrangers viole les droits sociaux, économiques et environnementaux des habitants tout en les privant d'une source essentielle de revenus, indique le rapport. Amnesty International a appelé le gouvernement gambien et les acteurs de la communauté internationale à veiller au respect de la réglementation nationale et internationale en matière de pêche. Ce dimanche 4 juin sera célébrée la clôture des activités du jubilé des 140 ans de l'évangélisation de la République du Congo, Congo-Brazzaville. C'est avec ferveur et joie que les fidèles catholiques congolais se préparent à cet événement, comme nous l'explique Mgr Bienvenu Manamika, archevêque de Brazzaville et président de la Conférence épiscopale du Congo-Brazzaville.
Monseigneur Bienvenu Manamika, ce dimanche, vous célébrez la clôture du jubilé des 140 ans de l'évangélisation du Congo. Comment avez-vous prévu d'organiser cette grande célébration? Comment allez-vous la célébrer?
Bon, mais je vous dirais déjà que nous ne célébrons pas que le dimanche. La célébration a commencé déjà il y a 3 semaines. Nous avons été à Owando, c'était grandiose. Le peuple de Dieu était au rendez-vous. Tous les évêques étaient là. Nous nous sommes retrouvés à Pointe-Noire, principalement à Luango, d'abord à Owando, autour de Monseigneur Victor Abania, et puis les évêques de la province, n'est-ce pas, ecclésiastique d'Owando, et Pointe-Noire, les évêques de la province ecclésiastique du sud-ouest, et maintenant c'est Brazzaville. Et Brazzaville, c'est pas seulement le 4 juin. Le 4 juin, c'est l'apothéose, c'est le paroxysme de cet événement. Et là, nous allons nous retrouver toujours dans cette solidarité ecclésiale, tous les évêques. Et nous commençons ces événements à partir du 1er juin. Et l'atterrissage, c'est le 4 juin, comme vous êtes en train de le dire. Voilà l'occasion de dire merci au Saint-Père François, qui a été très sensible à cet événement et qui nous envoie le cardinal Tierney. Le cardinal Tierney, qui est
le préfet du Dicaster,
voilà, oui. du service, n'est-ce pas, du développement humain et intégral. C'est lui qui vient. Et Propaganda Fide, toujours au nom du Saint-Père, nous envoie le révérend Père John, qui sera avec nous, qui représente Propaganda Fide. Donc, le cardinal Tierney est le représentant de la Propaganda Fide, qui sera avec nous, qui arrive déjà le 2 juin et qui restera avec nous jusqu'au 6 juin.
Donc, voilà. C'est pour dire que l'Église universelle y est représentée.
Exactement. Vous avez trouvé le terme. Il rend de présent le pape lui-même, n'est-ce pas, parmi nous. Et là, au-delà, c'est l'Église universelle. Et en dehors de cela, il y a des évêques d'Afrique centrale qui seront aussi avec nous. Eh bien, au cours de la célébration eucharistique, justement, du 4 juin, nous aurons l'ordination. Donc, le cardinal Tierney va ordonner 9 prêtres. Voilà. Ils sont aussi fruits de ces 140 ans d'évangélisation.
Monseigneur Bienvenu Manamika, archevêque de Brazzaville et président de la Conférence épiscopale du Congo-Brazzaville, il répondait aux questions de Stanislas Kambashi. Alors que se clôture le jubilé des 140 ans de l'évangélisation du Congo-Brazzaville, le 4 juin, c'est à cette même date que s'ouvre le 3e congrès eucharistique national de la République démocratique du Congo voisin qui se tiendra jusqu'au 11 juin à Lubumbashi, dans le sud-ouest du pays. Les organisateurs de cet événement national sont à pied d'œuvre pour sa réussite. Dans une interview accordée à Vatican News, Mgr Richard Kazadi Kamba, évêque de Kolwezi et secrétaire exécutif de ce congrès eucharistique, confirme l'évolution positive des préparatifs en expliquant les fruits attendus de cet événement par les Congolais.
Tout le monde est en mouvement à attendre cet événement qui a été reporté à 2 reprises à cause de la crise sanitaire de Covid-19. En tout cas, le peuple de Dieu qui est à Lubumbashi attend chaleureusement cet événement. Non seulement la population de Lubumbashi, mais aussi les délégations qui sont en train de venir de tous les 48 diocèses de notre pays et même de l'extérieur de notre pays, puisque nous avons eu à inviter les conférences épiscopales de 9 9 pays limitrophes. Par exemple, pour le moment, je peux vous rassurer que l'Angola s'est déjà annoncé. C'est un climat de joie et d'attente de ce grand rendez-vous ecclésial.
Monseigneur, comment est-ce que la province ecclésiastique de Lubumbashi en particulier s'organise pour accueillir et organiser ce congrès eucharistique national? Est-ce qu'on peut dire que pour le moment, tout est en place pour une bonne organisation? Sinon, qu'est-ce qui resterait à faire?
Moi, je dirais à 88%, tout est en place. Et ici, il faut reconnaître vraiment l'implication de l'archevêché de Lubumbashi dans plusieurs secteurs de l'organisation. Je pense que aujourd'hui nous n'avons pas à nous inquiéter. Au contraire, nous sommes comblés de joie puisque nous voyons que nous sommes prêts à accueillir les différents pèlerins qui sont en train d'affluer vers la ville de Lubumbashi. Et pour votre information, il y a déjà 7 évêques qui sont déjà présents. Comme vous le savez, dans notre pays, il y a un problème de liaison avec les lignes aériennes. Il y en a qui sont déjà présents à Lubumbashi.
Quels sont les objectifs principaux de ce 3e congrès eucharistique national en RDC? Comment est-ce que cet événement pourra contribuer à la croissance spirituelle des fidèles et au renforcement de la communauté chrétienne?
Je suis très content puisqu'en me posant la question, vous avez déjà donné la réponse. L'objectif ou les objectifs principaux de tout congrès eucharistique, essayer de raviver la dévotion eucharistique des chrétiens et aussi montrer aux chrétiens la centralité de l'Eucharistie dans la vie chrétienne et dans la mission de l'Église. Aujourd'hui, le sacrement de l'Eucharistie nous interroge beaucoup. Si nous voyons combien de chrétiens, parfois le dimanche, n'arrivent pas à mettre au centre de leur journée dominicale la célébration eucharistique. Ce sont toutes ces questions qui seront abordées durant le colloque de 3 jours, le colloque théologique, et aussi les catéchèses que les évêques auront à donner le mercredi dans les 4 langues de notre pays et en français dans certaines paroisses que nous avons déjà ciblées.
La participation des fidèles est essentielle pour la réussite d'un tel événement. Comment est-ce que les diocèses de Kolwezi se préparent et à mobiliser les fidèles et à les encourager à participer activement à ces congrès nationaux? Y a-t-il des initiatives mises en place pour favoriser leur implication et leur préparation spirituelle?
Tout à fait. Nous avons envoyé un programme pour tous les 48 diocèses de notre pays, puisque comme vous le savez bien, toute la population catholique ne pourra pas être présente à Lubumbashi. Même ceux qui resteront dans les diocèses auront à vivre cet événement tout en étant loin, mais en communion de cœur et de prière, avec un programme qui avait déjà été remis à chaque évêque au mois de février dernier. Et au niveau de Kolwezi, nous avons essayé de mettre en pratique ce programme, comme tout diocèse, en mobilisant les chrétiens à travers des catéchèses et de moments d'adoration et particulièrement les 24 heures devant le Seigneur. Et il y aura aussi une forte délégation du diocèse de Kolwezi qui viendra physiquement prendre part à la célébration de ce 3e congrès eucharistique national.
Monseigneur Richard Kazadikamba, vous êtes évêque dans un pays confronté à de multiples défis, dont l'instabilité et la guerre dans l'est du pays. Qu'espérez-vous voir se produire dans l'église locale de la RDC et dans les pays tout entiers à la suite de ce congrès eucharistique national?
Comme vous le savez, l'Eucharistie, c'est le sacrement de la communion. Moi, j'irai même plus loin, c'est le sacrement de la fraternité universelle. Et avec ce congrès, nous espérons revoir la paix s'installer de nouveau à l'est de notre pays et même à l'ouest, à Kwamout, là où il y a aussi de conflits. Mais c'est à ce niveau qu'on aura à souligner aussi la dimension missionnaire de l'Eucharistie, puisque nous qui prenons part à la table eucharistique, nous sommes appelés à être les sacrements et les apôtres, les missionnaires de cette communion que nous professons dans la célébration eucharistique.
Auriez-vous un dernier mot?
Un dernier mot, c'est un sentiment de joie et surtout que le Saint-Père sera présent parmi nous à travers le délégué qu'il a eu à choisir. Ce que je pourrais dire, toute l'Église universelle nous porte en prière afin que ce rendez-vous ecclésial puisse apporter des fruits et surtout des fruits de paix et de fraternité entre le peuple de la République démocratique du Congo.
Monseigneur Richard Kazadikamba, évêque de Kolwezi et secrétaire exécutif du 3e Congrès Eucharistique National de la République démocratique du Congo, interrogé par Stanislas Kambashi.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Amis auditeurs, mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons un point final à cette édition qui vous a été présentée par Françoise Nyamia. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie. À très bientôt.